Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Clémentine Golsan, Hugo Cassavetti, Philippe Azoury et sur nos platines, Christophe, etc. Christophe, Igor de Tyler, the Creator, Here Comes the Cowboy de Mac DeMarco et puis un coup de cœur de Philippe Azoury pour le Rossignol de Beyrouth. Nous ouvrons cette dispute avec Christophe, etc. de... Christophe, sorti chez Capitol, l'auteur, compositeur, interprète, apparu en pleine époque yéyé, qui a triomphé dès 1965 avec Aline. D'autres ont disparu, Christophe est resté. Il a tracé sa voie tout à fait singulière, il a connu un nouveau sommet, c'était en 75 avec Les Mots Bleus. Et puis dans cet album de reprise, il va donc revisiter 10 titres de son répertoire en bonne compagnie. Étienne Dao, Sébastien Tellier, Yasmine Hamdam, Camille et quelques autres. Un tour de table avant de débuter notre dispute et avant d'entendre un extrait. Un tour de table pour connaître votre sentiment sur ce disque, sentiment que vous développerez par la suite. Je vais laisser le temps à Hugo Cassavetti de se mettre face à son micro, ce qui sera mieux. Hugo,
ah, sur,
un
Christophe,
petit mot d'accroche.
Ah, qu'est-ce qu'on pourrait dire l'idiot savant à qui on pardonne toujours tout, ou presque.
Philippe Azoury.
Un naufrage.
Clémentine Goldsall.
Un enterrement de son vivant.
Waouh, bon.
Eh ben, mais c'est pas négatif.
Non mais ça promet, pour la dispute à suivre avant cela, pour essayer de comprendre ce que vous venez de dire tous les trois. Philippe, j'ai compris. On écoute La Manne avec Yasmine Hamdan.
Quelque chose de nouveau.
des robes, changer de peau. Cœur rivé en satin rouge. Chaque fois, repartir à zéro. Elle veut la fête, que ça bouge. Elle veut tous les soleils couchants. L'or de la chair, l'ivresse, la gloire. La vérité nue, belle à voir. Elle veut tout, elle veut le carreau.
Je veux prendre choses, renverser le ciel. Les paupières m'éclosent, je veux l'étincelle. Que la nuit se lève encore, tête en colère. Je veux quelque chose.
Christophe, etc., en l'occurrence avec Yasmine Hamdan. Mais naufrage, vous avez dit naufrage.
Oui, oui, oui.
Non mais c'est un mot fort, c'est Philippe Azoury.
Christophe, et pourquoi ça, quoi? Non, Christophe raconte que c'est Pascal Nègre qui lui a proposé l'idée il y a déjà très très longtemps. C'est une vieille idée qui traîne d'un précédent label, d'un disque de reprise. Alors, ce ne sera pas un unique disque de reprise, il y a un deuxième volet qui est prévu pour le mois d'octobre, avec un duo, reprise et duo, on va les appeler comme ça, un duo avec Arnaud qui peut peut-être faire envie.
Pas avec moi donc, mais avec le chanteur.
Oui, ouais. Pas avec vous.
Non, parce que j'aime bien que vous me flattiez. Je crois qu'il faut quand même démentir tout de suite toute rumeur.
Quel morceau de Christophe vous auriez choisi s'il y avait eu un petit duo comme ça à prévoir?
Je ne serais pas risqué. Moi, je vais réfléchir à votre question.
Voilà. Le disque revisite l'intégrale, enfin voilà, des coins à la fois les plus éclairés et des faces B, notamment c'était ce... C'est ce morceau avec Panique et le DDC, Cœur défiguré, qui était une phase B de 45 tours, qui est déjà un morceau expérimental. Dans les orchestrations, c'est plutôt intéressant. Enfin, Christophe propose quelque chose.
La voix de Christophe n'est pas intégrale.
Voilà. Non, le naufrage n'est pas intégral. C'est l'idée qui est un naufrage. J'y viens. La voix de Christophe est même incroyable parce que sur ce même micro, à peu près au même endroit, il y a un mois et demi, on parlait de la voix de Godard, cette voix qui, on avait l'hypothèse que Godard l'a forcé un peu pour donner cette voix tremblotante. La voix de Christophe sur ce disque, c'est la voix quasiment d'un enfant, presque d'un rossignol. Et elle est très très émouvante. Et elle est précisément gâchée.
Thématique rossignol ce soir.
Voilà. Hein. Thématique Rossignol. Et elle est précisément gâchée, j'ai l'impression, par des duos qui ou desservent les morceaux. Alors, la bonne idée, c'est que ça nous donne envie de réécouter les originaux, mais c'est quand même un peu. Enfin, c'est un projet très très long. Faire deux disques pour que les gens reviennent aux originaux et les évitent à tout jamais, c'est quand même un peu un problème. Et où jamais n'arrive à cristalliser quelque chose autour d'un dialogue avec Christophe. Sauf le morceau qui doit être Petit Gars avec Étienne Dao. Où je trouve que là, il se passe quelque chose. Où Dao amène un truc, une gravité, un truc, il faut pas le dire, mais amène en tout cas une gravité, amène une suspension, laisse de l'espace. Il y a du jeu, comme une partie de tennis. Il laisse de l'espace pour que Christophe arrive, que quelque chose se. Puisse au moins se dérouler à cet endroit-là. Pour le reste, je vois des gens essayer de faire des reprises de Christophe en présence de Christophe, et Christophe venir finalement conclure le set avec de sa voix absolument incroyable, et on ne voit pas du tout pourquoi on assiste à ça. Et surtout pourquoi il doit y avoir une suite à ça, absolument, je ne sais pas.
Clémentine Goldsan.
Moi, je ne l'ai pas du tout vu comme ça, c'est marrant, parce que pour moi, en fait, Christophe, qui est un chanteur effectivement dont on adore la voix, mais ça fait 45 ans qu'il dit « je ne suis pas un chanteur, moi je fais du son ».
55 ans.
55 ans. Moi, je fais du son. Il dit tout le temps ça, je fais du son. Et du coup, moi, cet album, je l'ai écouté comme l'album de Christophe Producteur, qui réarrangeait ses propres morceaux, qui les désossait complètement, un peu comme Bob Dylan le fait d'ailleurs sur scène depuis des années maintenant, mais qui désossait ses propres morceaux et qui les recousait sur le corps d'autres chanteurs. Et ça, moi, en fait, la démarche m'émeut parce que j'ai l'impression qu'il a retaillé ses morceaux pour les chanteurs qu'il a invités et qu'il aime manifestement. Et du coup, effectivement, il y a Nusky et Vati, ces deux rappeurs qui, tout d'un coup, injectent un petit truc à la PNL. Et Yasmine Handan, bon, qu'on a écouté, qui devient un truc...
Tu n'évoqueras point le nom de PNL. De le nom de PNL devant Philippe Azoulay.
C'est pas un compliment dans ma bouche. Ah, hein.
Justement, c'est bien le problème.
Dans le mien, c'est dans le mien, oui.
Ah zut, on va reprendre ce débat.
Ah oui, non, parce que là, il y a le
non, mais Nusky et Vati, c'est consternant d'ouvrir son succès fou quand même avec eux. Moi, je trouve ça, ça part mal.
Ah bon, vous trouvez? Moi, je trouve que, en fait, je trouve que le résultat, moi, personnellement, je suis pas non plus une fan énorme de Christophe, donc ça ne moutre pas qu'on touche à ses chansons parce qu'elles ne font pas partie de mon panthéon.
Mais si on y touche, autant faire quelque chose de bien. Et là, ça commencerait mal avec mon succès fou. C'est pas mon morceau de préféré de Christophe, c'est pas celui que j'aurais sans doute chanté en duo, mais là, Nusky et Vati, j'ignorais l'existence. Je les ai aussitôt oubliés, vous voyez ce que je veux dire?
Non, mais je trouve ça touchant, moi, qu'il fasse cadeau de ses chansons à d'autres et qu'il les adapte.
Je pense que c'est peut-être pas les mêmes configurations à chaque fois, ou le même esprit peut-être. Mais je continuerai cette hypothèse. On va entendre Hugo Casavetti qu'on n'a pas encore entendu.
Oui, je pense que je suis entre les deux, c'est ni fait ni à faire. La seule chose effectivement éventuellement à sauver, c'est sa voix, mais après c'est revenir au concept même de ces albums de duo qui sont à peu près le cliché de la chanson
duo
française.
Duo sur des reprises, qui
de tous les de duo sur reprise. C'est ce qu'on a fait, ce qu'on fait avec tous les chanteurs vieillissants, ils ne savent plus quoi en faire, et Christophe encore plus, il coûte tellement cher à faire des disques et qu'ils ne se vendent pas assez bien, que là ils ont dû, je pense qu'on lui a proposé le deal, il a résisté longtemps, et après il fait, alors c'est ce qu'on aime bien chez Christophe, ce mélange, quand j'appelais les idiots savants, c'est, j'ai toujours trouvé que c'était le plus anglo-saxon des chanteurs français, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez vulgaire et instinctif, mais touché par une grâce énorme, il a cette espèce de goût qu'il dépasse. Et tout. Et là, on trouve ce mélange, mais qui fonctionne très peu. Moi, c'est drôle, parce que le morceau qui marche presque le plus, même si pas abouti, c'est Les mots bleus. Parce que là, je ne sais pas qui, finalement, s'adapte à qui, mais simplement, au moins, d'avoir Son Lux, on a quelque chose de très différent. C'est quand même autre chose que, je viens d'entendre une reprise de Johann Pop à Constantino, des mots bleus, qui est juste assez consternante, quoi, de premier degré. Et le problème de Christophe, c'est qu'il se laisse emporter, il traîne, on retrouve son mauvais goût. Alors il dit Mitchell, c'est son copain, mais on n'a pas envie d'avoir un duo qui dit Mitchell, quoi.
C'est vrai, possible. Mais ça en est presque drôle, moi, du coup, je trouve.
C'est drôle, mais
c'est vrai que je réécouterai pas.
Mais on l'écoute pas. et soit c'est un
mais
peu premier degré.
Mais même vous qui aimez Christophe, vous aimez
comment
pas ça. Vous qui aimez Christophe, vous n'aimez pas ça.
Déjà, j'ai un problème avec les albums de duo, c'est que je vois pas ce que ça apporte. J'aime pas plus quand Sting reprend ses morceaux, mais bon, j'aime pas beaucoup Sting.
Quel drôle de comparaison.
Non, mais pour moi, c'est ce qui est dans l'air du temps et tout. Mais là, on a ce disque, effectivement, on nous annonce le deuxième, comme s'il misait déjà, on va le rentabiliser sur...
vous n'avez pas aimé le premier, mais
succès,
attendez.
Un succès fou, mais un succès facile. Ouais. Et on se retrouve avec un disque qui tient pas, quoi. On décroche tout le temps. C'est-à-dire que moi, après, peut-être vous l'aimez bien, Sébastien Tellier, pour moi, ça n'existe pas.
Moi, j'étais persuadé que c'était un duo avec Marc Lavoine. C'est après coup que je me suis aperçu que c'était Sébastien
Tellier. Oui, parce qu'en plus, on va chercher qui c'est. Ils sont allés chercher Christabel, ça fait un petit effet branche, oui, parce qu'il est content, parce qu'il a vu qu'elle a chanté pour Lynch. On sent qu'il s'est fait plaisir, on a dû lui donner des noms.
Bah oui, c'est pas non plus un crime de se faire plaisir.
Sauf
moi, j'adore l'idée
qu'il
se panthéonise de son vivant. C'est ça qui me plaît.
Oui,
c'est qu'il s'empaille lui-même.
Oui, mais ils le font tous.
Ils le font tous, il y a très longtemps.
Donc, et c'est là où je disais, c'est celui qui en pardonne tout.
Non, mais quand vous avez la manette à ce point.
Quand vous avez la Starac chante Goldman, Goldman n'est pas là.
Oui, c'est ça.
Là, Christophe est là, il contrôle quand même tout. C'est ça qui est intéressant.
Il est fait venir chez lui.
Depuis 5-6 ans, on en a, mais je ne les ai même plus en tête. Mais ils l'ont tous fait.
Mais pas en
produisant
eux-mêmes.
Pas en produisant eux-mêmes. Là, c'est vraiment Christophe, il a tout refait lui-même.
Mais Clémentine qui se panthéonise ou il se momifie lui-même. Ce serait presque intéressant, ce serait touchant. Le problème, c'est les invités. Parce que moi, j'aime bien ce qu'il fait, justement, aux arrangements. Mmh. Et sa voix, je la trouve très, très belle. Elle est très, très touchante. Mais il n'y a pas un seul dialogue, moi, un peu le Dao que je mets un peu de côté, mais il n'y a pas un seul invité qui n'arrive à trouver sa place à l'intérieur de ces enregistrements nocturnes. Pas
mais,
un seul.
Enfin, oui, mais est-ce qu'il leur fait la place pas. Moi, c'est ça ma question, en fait. Justement, dans la mesure où il contrôle tout.
C'est peut-être un disque ironique, mais pourquoi
je pense qu'il peut y avoir quand même une certaine ironie dans le fait de dire je vous invite, mais en fait, c'est pas chez vous, c'est chez moi.
Oui, ça arrive chez.
Et donc, vous restez quand même à l'extérieur.
Je suis pas sûr. C'est le dîner de con. Aussi calculateur que ça. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'il fait. À un moment, il doit s'arrêter. Nuski et Vati, on n'y croit pas une seconde. Non, qu'il ne trouvait pas tant. On a dû dire oui, tiens,
moi, je crois qu'il
les
adore.
Déjà, il fallait les trouver avant de les trouver. Mais oui. Pas tant.
Ah, moi, je suis sûr qu'il les adore.
Il parle comme ça. Ah, Camille, elle est géniale. Je suis sûr qu'il aime Camille. Camille, je peux l'apprécier. Mais je trouve que la petite fille du soleil, ça n'apporte rien.
Ah, moi, je crois qu'il est complètement sincère.
Qu'elle chante comme une petite fille. Enfin,
alors que son dernier album était plutôt réussi à Camille, moi qui commençais à l'aimer. Mais bon, moi, je crois qu'il y a un problème de place pas vraiment faite. Je reste quand même là-dessus. Alors, consciemment, inconsciemment.
C'est pas la première fois qu'on est invité et en fait, pas vraiment invité.
Hein?
Je pense qu'ils le sont. Ouais. Non, mais c'est un disque.
On va pas
trancher
la question.
Non, mais voilà,
soir.
C'est un disque qui se voudrait éventuellement très populaire, il peut pas l'être. Et en même temps, c'est pas un disque si. Oui, il est total. Je sais pas s'il est inabouti, mais avec lui, tout est toujours inabouti. Mais
oui,
c'est ce qui le rend intéressant d'habitude. Et là, non.
Parce que pour moi, c'est le grand paradoxe.
Inabouti pour faire un produit fini qui. On s'en fout, quoi.
Mais le projet Hugo, vous l'avez dit, enfin, c'est quand même l'idée, c'est de pas faire un greatest hits, un best-of, mais quand même de livrer une sorte de best-of avec une accroche nouvelle pour essayer d'en vendre un peu plus, parce que c'est vrai qu'il peut.
Moi, je préfère ça à un best-of, quoi, tant qu'à faire.
Mais sauf qu'il y en a déjà 12. Plus des lives, plus des. Ils savent plus quoi faire, ouais.
Là, c'est quand même une manière d'inventer, de réinventer quelque chose.
Mais moi, sur la proposition, oui, pourquoi pas. Mais le problème, c'est le résultat, il est quand même affligeant une fois sur deux.
Bon, on va attendre. Alors, si c'est une fois sur deux, on va attendre le volume 2.
Moi, je suis curieux du duo avec Arnaud.
Alors, on sera curieux du 2.
Laetitia Castas.
Oui, bon, ça, on est peut-être.
Et Charlie et Lulu de
D'accord.
Et Pinto et Oli.
D'accord. Et du coup, et les frérots de la Vega aussi, je crois, sont prévus. Du coup, les concerts, ça va attendre. Je vois les prochains concerts. À Christophe, le 3 octobre à Montpellier et 22 novembre à Vittel. Allez savoir pourquoi. Ça lui donnera l'occasion peut-être de boire de l'eau à Christophe. Non, et vous pouvez écouter par vous-même, c'est ce qui vous reste de mieux à faire pendant que Philippe Azori dit je ne sais quoi parce que je ne l'entends pas. On va parler ensuite dans cette émission de Tyler the Creator, de Mac DeMarco et du Rossignol de Beyrouth.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute avec Igor, de Tyler, the Creator, sorti chez Columbia. Alors, on se souvient peut-être que l'ancien prodige du rap de la fin des années 2000 s'était quelque peu étiolé au fil des années et on avait été. Plutôt très agréablement surpris, en tout cas je parle pour moi, de le retrouver en pleine forme il y a un an et demi avec l'album Flower Boy. La question était de savoir s'il allait confirmer ce retour aux affaires ou peut-être nous décevoir à nouveau, retomber dans cette forme de désintérêt poli qu'il avait suscité après des débuts flamboyants, avant d'écouter un morceau puis de développer. Là encore, première réponse à cette question, déception ou confirmation. Rapide tour de table, Clémentine Goldsall.
Plus cérébral qu'émotionnel pour moi, il me manque quelque chose. Du cœur.
Philippe Azoré.
Beaucoup d'intensité, beaucoup d'épaisseur, un assez grand disque à mon sens.
Hugo Cassavetti.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Tyler de Creator et à travers.
On écoute. On écoute pendant que vous rigolez. New Magic Wand.
So Sometimes you gotta close the door to open a window.
I saw a photo, you look joyous. My eyes are green, I eat my veggies. I need to get her out the picture. She's really fucking up my frame. My mother said I'm on the spectrum. Don't call me selfish, I hate sharing. This 60-40 isn't working. I want 100 of your time, your mind.
Voilà pour cet extrait du nouvel album de Tyler, The Creator. Dans ce morceau, il dit notamment, hein, parce qu'on va beaucoup parler de la dimension autobiographique, « J'ai vu une photo, tu avais l'air joyeuse, mais comme par magie, tu as disparu. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Ça me rappelle
joyeux.
Quelqu'un. Oui. « On peut être finalement ensemble, la chance du débutant, tu n'es pas ma première. Tu es sous serment maintenant, choisis ton camp. Si tu ne le fais pas, je vous choisirai toutes les deux, etc. etc. »« Je vis la vie sans peur, excepté l'idée qu'un jour tu ne seras plus là. » Il insiste, je veux que l'on partage nos noms, je veux être ton numéro 1, etc., etc., etc. Nouvelle baguette magique. Ça va pas bien, Taylor, semble-t-il, Clémentine Goldsall. Hein.
Oh, ça va pas bien, mais ça va pas non plus très très mal. Il est numéro 1 du top américain, il est le premier
artiste. Je parle de sa vie, de son album.
Premier album autoproduit à être numéro 1. Sa vie, oui, bon, bah, il faut bien trouver des trucs sur quoi chanter. Il a toujours été quand même un petit peu perturbé comme garçon depuis qu'il est apparu. Et puis, moi, ce qui m'intéresse personnellement chez Tyler, c'est que c'est une sorte d'artiste à 360 degrés, quoi. C'est comme quasiment un artiste contemporain. Il fait lui-même ses vidéos qui sont assez géniales. Là, pour cet album, il s'est créé un costume avec une perruque blonde un peu à la Sia, très étrange, des lunettes années 80.
En fait, c'était lui, Sia.
Ou Mireille. d'Arc.
Ou Mireille d'Arc.
Ou Woodkid.
Non, ça y est. Le mauvais esprit qu'a sa métier, là. Poursuivez, Clément.
Non, moi, c'est ça, en fait, qui me fascine. Du coup, c'est ce que je disais, en fait, en introduction, ça parle plus à ma tête qu'à mon cœur, quoi, au final, cette musique. Et je trouve l'album, à la fois vraiment clairement l'album d'un génie, mais à qui on a envie de donner un calmant. Et lui dire, écoute, fais une chanson à la fois. Et moi, il y a des moments dans le disque où j'ai l'impression d'entendre deux chansons l'une sur l'autre, superposées, quoi.
Ah.
Ouais, je trouve qu'il y a...
Trop.
Oui, je trouve qu'il y a trop de choses, ah, que c'est un millefeuille. Et que moi, il y a une sorte de trouble de l'attention qui, moi, m'angoisse, en fait. Ensuite...
Je reviens vers vous, Clémentine, mais comme ça, on va faire un premier sondage auprès de nos camarades, Hugo Cassavetti.
Oui, on va peut-être déjà un tout petit peu le resituer, qui avait quoi, Old Future, au début, où il y avait un trio, Earl Sweatshirt d'un côté et Frank Ocean de l'autre. Et Tyler, the Creator, sachant que les deux, Frank Ocean et Tyler, the Creator, sont homosexuels, ce qui quand même est intéressant.
Tyler, c'est pas clair.
C'est pas très clair, mais là-dedans, c'est de plus en plus clair.
C'est
de plus en plus clair. En tout cas, son paradoxe, c'est que c'est quand même lui qui a été banni à quelques angles pour homophobie et qui apparemment fait de plus en plus son coming out, puisqu'apparemment tout le disque raconte cette histoire un peu de son problème. Justement, il est numéro un, mais qu'il est malheureux. Ça y est, il a atteint ça. Là, il n'y a plus de doute. Je suis à succès. Je suis sur les pas de mon idole, mon modèle Kanye West. Mais voilà, comme toujours, mais ma vie sentimentale ne va pas. Le garçon que j'aime préfère une fille, en gros. C'est ça, toute l'histoire du... Donc, et ça, c'est l'autre chose qui m'interroge avant d'arriver à la qualité du disque, c'est que ces gens qui sont de cette génération, c'est pas eux qui ont créé ça, qui ont, d'ailleurs c'est drôle que ce disque n'existe pas en physique, qui ont été de cette génération, qui a cassé l'idée même du disque entier concept qui se raconte, c'est, ils évoluent, ils essaient de comment se sortir, non pas se sortir du rap, mais le faire évoluer, aller vers autre chose, et en recréant l'album dans un monde où la plupart des gens qui écoutent ces disques cherchent juste des morceaux, les écoutent, disent voilà, il y en a trois et tout. Donc c'est à la fois assez formidable, deux ou trois ont réussi ça récemment, Kanye West en a fait un ou deux, Frank Ocean l'a réussi très bien, et peut-être Childish Gambino dans un autre genre. Mais c'est vrai que c'est des disques, pour moi, assez difficiles, venant peut-être un peu d'une culture plus rock, où voilà, quand il y a un type comme Bill Gallan sort un disque, il me raconte une histoire, je suis en terrain connu. Là, on sent qu'ils ont entre les mains presque le devoir de créer la musique de demain. Et c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'on entend dans cette musique, qui est un peu de rap, un peu de soul, un peu de rétro, un peu de futur. Et c'est ce qui pose un peu problème, parce que comme il est très doué, donc il est à la fois producteur, il est tout, et en même temps j'ai l'impression qu'il se prend les pieds dans le tapis de tout ça, peut-être de son talent, mais d'empiler les choses au détriment de parfois une chanson plus simple. Et puis l'autre chose, je dis souvent ici, cette culture qui est là du featuring, du guest, de retrouver toujours les mêmes gens sur tous les disques, qu'à un moment, moi, paradoxalement, ça les appauvrit un peu, parce que j'ai l'impression d'entendre les mêmes voix tout le temps, les mêmes effets, les mêmes ce besoin d'empiler, comme s'il cherchait toujours. C'est ce qui à la fois rend ça passionnant. Il y a un récit et en même temps on reste un peu sur sa fin parce qu'on n'accroche pas à un morceau. Et est-ce qu'on fait vraiment l'effort d'écouter l'album en entier une fois qu'on a écouté une fois pour avoir ce récit? Et donc c'est un objet un peu curieux, mais assez admirable quand même.
Je reviendrai vers vous, Clémentine, on va entendre Philippe Azoury, mais quand vous dites vous faire un effort, moi, parmi les qualités de ce disque, c'est qu'il y a 12 morceaux, ça fait 39 minutes.
Ou 44,
et moi, 39, et ça me raconte absolument une histoire. Non, on n'a pas la même version, on n'a pas la même plateforme, on n'est pas abonné aux mêmes plateformes musicales, vous et moi, ça doit être ça. Et que moi, ça me raconte une histoire. Philippe Azoury.
Non, j'avais envie de réagir justement sur ce que disait Hugo, notamment sur ce format. Alors, bon, je sais pas, chez moi, ça apparaît comme 44 minutes, mais il devait y avoir un blanc à la fin, quelque chose comme ça.
Ou alors, il y a un rossignol qui passe par là.
Non, j'étais au contraire, enfin très très impressionné dès la première écoute, et ça n'a jamais cessé là toute la semaine, parce que le disque a désormais à peu près 10 jours d'existence virtuelle, par cette intensité, par cette unité, enfin cette impression d'unité, effectivement cette folie dans la production qui fait que ça m'a rappelé aujourd'hui quelqu'un. Je me suis un moment, comme plein de gens, enfin dans les réactions qui sont sorties depuis quelques jours, on se demande toujours si c'est réellement un album de rap. C'est quasiment une question que depuis Kanye West on se pose depuis 10 ans. C'est un album de pop.
Ouais, c'est une question intéressante.
Non, moi
ça n'a aucun intérêt.
Elle ne m'intéresse pas. Elle ne m'intéresse pas des masses, mais elle m'amène vers une autre référence. Et finalement, la référence à laquelle je pense, c'est où c'est Marvin Gaye, What's Going On, pour le côté concept album, mais c'est surtout, c'est quelqu'un des années 70 de la même période, et peut-être parce qu'il y a un morceau qui s'appelle Are We Still Friends qui m'y fait penser, c'est Todd Rundgren. C'est Todd. C'est-à-dire, c'est, et même dans cette folie de production, dans cette idée de mettre plusieurs couches qui avaient l'air de déranger à ce point Clémentine et qui, moi, au contraire, enfin, j'ai l'impression d'une sorte de forêt, une forêt touffue dans laquelle je peux m'enfoncer. Dans cette idée aussi de, c'est la première fois de tous les disques de Tyler the Creator qu'il arrive à pousser aussi loin. Il surmixe sa voix dans les aigus. Il a presque effacé les graves. Alors peut-être qu'on y verra justement une forme de outing aussi, ou de coming out. Là-dessus, j'en sais rien. Mais il y a vraiment cette idée qui le travaillait depuis 4 ou 5 ans déjà avec un featuring, je me souviens, de Pharrell Williams. Ça doit être pour la BO d'un film, je me souviens plus lequel, où il rejouait une scène de ménage et il invitait Pharrell à prendre le point de vue qui, dans le clip, était un point de vue féminin parce que c'était incarné, le personnage que jouait Pharrell au micro était incarné par une femme dans le clip, avec des feulements comme ça très 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 aigu, déjà très très féminin on trouvait, et au milieu de ça on avait des samples de carabines, enfin c'était un morceau qui était à la fois impressionnant, troublant, on savait bien que sexuellement il se passait quelque chose. C'est aussi sur ça que je voulais rebondir, sur Hugo avait commencé là-dessus. Il a été, c'est celui qui s'est fait le plus effectivement bannir, attaquer sur des questions d'homophobie. Aujourd'hui on comprend ce qu'on beaucoup avec MCZ depuis très très longtemps, notamment avec ce duo avec Pharrell, c'est que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, et que c'est un grand disque d'acteurs. Ce qui fait que c'est très étonnant la place des featuring ou des guests dans ce disque-là. Le fait de faire venir Kanye West pour quasiment ensevelir sa voix, personne ne le reconnaît. Enfin, s'il faut aller chercher, plus personne n'est sûr que, est-ce que King Krul est là? On ne sait pas. On les reconnaît. Ils sont invités pour être quasiment, enfin, pour assister à un numéro où Tyler the Creator incarne tous les rôles. Il peut avoir été l'homophobe et être en même temps le bisexuel ou l'homosexuel parce qu'il est profondément, il a été acteur, il a commencé acteur et il est acteur, il reste acteur. Et c'est peut-être la limite du disque. Alors, moi, le disque me passionne. En termes de production, en termes de... Il a quand même un sens mélodique très fort. On a l'impression, au bout de 25 secondes, qu'on connaît ce truc depuis longtemps et qu'on peut le siffler sous la douche, au moins sur la moitié des morceaux. Il propose qu'on l'écoute dans son unité du début à la fin. Je trouve que le morceau... Moi, ça y est, au bout d'une semaine, je commence à les désosser, à les réécouter un peu séparément. Et je trouve qu'ils sont peut-être plus intéressants. Notamment, peut-être, le morceau avec Kanye West est beaucoup plus intéressant quand on l'écoute tout seul qu'au milieu de l'album, là où il se situe. Mais c'est réellement... sa limite, c'est que c'est réellement un disque... c'est quasiment un disque d'acteur. C'est un show de 45 minutes, de 39 minutes.
Selon les versions, 39 ou 44. Clémentine Goldstein.
Oui, je suis d'accord sur la dimension méta. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée que, effectivement, peut-être, il fut très homophobe et en fait, il était gay et tout. En fait, en réalité, on n'en sait rien du tout parce que, comme tous les artistes de hip-hop énormes d'aujourd'hui, ils donnent très peu d'interviews. Donc bon, ça, c'est un peu de la prospective freudienne. Et pourquoi pas, ça m'ennuie pas. Ensuite, sur le pour moi, il y a plutôt une sorte d'écueil du démiurge, quoi. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est laissé complètement seul, qui sort son album sur son propre label, et qu'en fait, laissé seul dans sa chambre à jouer avec trop de jouets, eh ben, il pète un câble. Et du coup, c'est vrai que je me dis que peut-être s'il y avait un producteur derrière ça pour le maintenir, pour lui donner des conseils, quelqu'un qui puisse écouter, peut-être que ça canaliserait aussi ce génie créatif.
Ouais, mais comme toujours, cette programmation extrêmement réfléchie de la dispute, on va voir ce que c'est que d'être laissé tout seul dans son propre label avec Mac DeMarco dans un instant.
Ils auraient été copains.
Copains, vous voulez dire.
Bon, non, copains.
Et non, mais par rapport à ce que disait tout à l'heure Philippe Azoury sur le côté, on fait venir des gens pour les écraser, moi je repense quand même à l'album de Christophe. Il y a des liens aussi tout à fait évidents. Alors là, il y a. Sur les plateformes, on trouve pas forcément les noms des featuring. Il faut aller chercher ça.
Sur ça, c'est du marketing, sur parce qu'on les trouve pas, sociaux, mais on les sait. Etc. Ça, c'est vraiment du marketing.
Enfin, franchement, à l'oreille, moi, j'étais pas du tout sûr de qui chante dans quel morceau, etc.
Non, mais en fait, l'album sort, ça fait événement. Oui. Il les met sur Instagram, donc ça refait événement. C'est quand même c'est du marketing, quand
ouais,
même, ça,
bon,
non
bah, je sais pas.
Vous
en tout
pas
cas, moi, j'ai une écoute complètement ingénue, en me disant, bah, après, j'ai vu, tiens, il y a Frank Ocean, il y a Pharrell, je sais pas qui, Kanye West. Mais pour revenir sur ce dernier morceau, dans le titre, et je l'ai pas sous les yeux, évidemment, comment vous disiez.
Magic Wand, celui qu'on a écouté.
Le dernier. C'est We Still Friends. Can We Still Be Friends, c'est Todd Rundgren.
Ah, We Still Friends, en effet. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de finir sur un vrai slow, enfin, qui est aussi vrai que puisse les faire Tyler, the Creator, mais moi, j'ai un vrai goût pour les vrais slows, et je trouve que c'est quand même assez beau, et gonflé de finir là-dessus, parce que ce disque, il commence quand même très très fort sur le morceau d'ouverture, effectivement, on a l'impression qu'on l'a déjà entendu mille fois. Et puis ensuite, il y a des morceaux très forts au début. Je trouve qu'il y a peut-être un petit passage à vide sur la seconde moitié de l'album.
Mais presque quand avec on des facilités, avec les morceaux les plus faciles.
Suite. C'est ça, ouais, c'est ça qui est étonnant. Et puis, finir là-dessus. Donc pour ça, la construction, moi, je trouve, fonctionne absolument. Et même s'il n'est pas sorti depuis longtemps, moi, j'ai l'impression de l'avoir déjà, pas que l'impression, énormément écouté.
Hugo Cassavetti. Non, mais juste sur ce dernier morceau, parce qu'effectivement, ça arrive comme un soulagement, et c'est un peu ce que je disais, ils cherchent tous, et à l'arrivée, petit à petit, ils arrivent tous à, comme s'ils rêvaient, tout en étant, en incarnant l'avenir, à si seulement on pouvait être il y a 30 ans, et juste être
oui, Denis Hathaway, ou c'est Aldrin, oui, juste de faire
une chanson assez épurée, pure, où mes émotions, qui soient pas ensevelies sous les effets des trucs comme ça, et ils se débattent avec ça, je trouve, et c'est vrai que, bon, le mot, je trouve que le mot génie, on l'entend tout le temps maintenant. C'est le mot le plus galvaudé. Donc au moment, si tout le monde est un génie, il n'y en a plus. Et je pense qu'il est très talentueux, mais on l'entend beaucoup quoi maintenant. Et
Moi, je considère pas qu'il y en ait énormément.
On dit, ouais, c'est un génie, dès que quelqu'un en plus.
Non, ça vous parlez de la presse musicale, qui titre chaque semaine sur le nouveau groupe génial.
Oui, pas dans les
c'est presque Hugo, si vous me permettez, mais c'est presque plus étonnant, parce que je me souviens d'une interview il y a peut-être 5 ans et demi avec Pharrell Williams. On est venu à parler à un moment donné de Tyler, the Creator, justement du potentiel absolument incroyable que ce garçon avait, et on sait que c'est un peu le protégé de Pharrell, enfin il y a un rapport comme ça, presque grand frère, petit frère, et Pharrell se disait inquiet, c'était il y a 4 ou 5 ans, se disait inquiet des directions que pouvait prendre Tyler, the Creator, que c'était quelqu'un qui était toujours une très très grande fragilité, presque mentale, et comme disait Clémentine, c'est vraiment, à un moment donné, est-ce qu'on peut le laisser seul dans sa chambre avec ses jouets sans que ça ressemble à un asile de fous, ou à une cellule d'asile. Et là, j'ai quand même l'impression qu'il arrive à un équilibre, déjà le précédent disque était donnait des nouvelles très rassurantes, et il y a eu effectivement pendant 2-3 ans des disques qui donnaient l'impression presque d'un Syd Barrett rap, un peu flippant,
un peu perdu. Dernier mot.
Oui, juste une dernière chose, c'était la référence à Todd Rundgren, que je trouve assez juste. Todd Rundgren, paradoxalement, est quelqu'un qu'on trouve passionnant pour ses recherches et tout. Et à l'arrivée, on garde les quelques bonnes chansons, moi je trouve, et pas les dizaines d'albums ou qui sont de la recherche sonore qui était audacieuse pour l'époque, mais qui sont assez épuisants. Alors c'est important ces disques-là de recherche, mais à l'arrivée, comme par hasard, ce qui reste, c'est les bonnes chansons, plus que les effets de prod.
Mais ce sera un grand disque, ce sera un grand disque de Todd Rundgren, enfin l'équivalent aujourd'hui d'un très grand disque de Todd Rundgren, The Wizard, The True Star, enfin des choses comme ça.
Bon, on va s'arrêter là-dessus parce qu'il y a un Rossignol qui nous attend.
Et Todd Rundgren faisait très bien Rossignol. Enfin, j'ai vu, c'était dans une cage de Medrano.
D'Igor, de Tyler, The Creator. Vous pouvez donc écouter, on les arrête plus, c'est le Muppet Show. La prochaine fois, je ne vous mets pas à côté les deux là, qu'on peut donc écouter sur les plateformes musicales. Et oui, c'est encore à Philippe Azoury de parler.
J'en peux plus.
Parce que c'est l'heure de son coup de cœur, le coup de cœur pour le Rossignol de Beyrouth. J'ai fait beaucoup d'effets d'annonce depuis le début de l'émission.
Ça vous a plu tout de suite.
C'est mon cœur qui bat très fort.
L'idée m'est venue parce que j'écoute beaucoup ce disque, le disque de Tambouli Miyoudin Bayoun. Mais c'est un peu une réponse à une de nos chroniqueuses qui s'appelle Sophie Rosemont, que j'ai croisée samedi, et qui me dit « Oh, toi, de toute façon, tu n'aimes que les gens morts ». Ce qui m'a un peu étonné, parce que je pense qu'il y a confusion avec un de mes meilleurs amis qui est vraiment plus rétrospectif et mélancolique que moi. Je suis plutôt frappé de jeunisme hystérique. Mais effectivement, quand je les aime morts...
D'où votre goût pour PNL.
Mais absolument.
Et Tyler.
Je pense toujours que les gens de 22 ans ont raison. Enfin, voilà,
c'est parce que vous êtes vieux, ça.
Bah oui, mais je pensais déjà 12 ans. Ça n'a pas changé. Mais quand je les aime morts, je les aime morts depuis très 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 longtemps. Vraiment, quitte à faire venir un vrai mort. On va pas convoquer quelqu'un qui aurait, qui serait suicidé au milieu des années 90, Kurt Cobain, choses comme ça. Remontons réellement le temps et passons une musique qui ne passe jamais à la radio, ni en France ni ailleurs, parce que je pense pas que Radio Orient ait une case vintage à ce point. Avec donc Tambouli Miyoudin Bayoun, le Rossignol de Beyrouth, dont une compilation, enfin qui est quasiment l'intégrale de tous les 78 tours qui ont pu être conservés, vient de sortir chez Amal. Amal, c'est Amal Music Archive and Research Foundation. C'est une entreprise privée. C'est un grand collectionneur qui a acheté il y a une dizaine d'années de ça 7078 tours. jour, qu'il a ensuite numérisé. Sa collection n'a jamais cessé de s'enrichir. Elle est basée à Amra, à Beyrouth, dans le quartier d'Amra. Et depuis 10 ans, Amar à la fois propose un site internet que je vous propose de visiter, avec des podcasts incroyables, avec des textes de musicologues, avec des numérisations quasi constantes, et surtout, une fois par an, chaque année à la même date, c'est-à-dire fin mai, début juin, on peut trouver à la FNAC, chez Gibert, à Paris, ailleurs, en tout cas c'est distribué en France, un CD comme ça, qui reprend, qui explore un monde qui est complètement un monde inconnu. Moi je n'avais jamais entendu parler de Mouhidine Bayoun, le rossignol de Beyrouth. Je peux vous dire que personne, même Wikipédia, ne peut nous renseigner sur lui. Certains disent qu'il est né en 1895, d'autres en 1868. On sait qu'il est mort en mars 1934 à Beyrouth, complètement ruiné, qu'il avait perdu la voix depuis 10 ans, et ce Mouhidine Bayoun, qui a été formé à l'école coranique de Beyrouth, c'est quelqu'un qui est capable de chanter à la fois dans le dialecte de Beyrouth, de Tripoli, de Damas, du Caire. Alors on va écouter un tout petit peu, et puis vous allez voir, c'est comme fumer de l'opium, mais à la radio, chez soi, c'est bien. Les trois disques sont comme ça. Le troisième disque instrumental, il avait déjà perdu la voix. Ça s'appelle Yatarik Al-Shad. Ça a été enregistré en 1921 sur le label Baidaphone à Beyrouth. Et voilà.
Voilà, enfin, il faut se le procurer.
Voilà. C'était un grand joueur. Juste une dernière chose, c'était à la fois un très très grand chanteur dans tous les dialectes possibles, ce qui est très très rare. C'était l'époque où on pouvait être dans une université à Beyrouth et parler 16 ou 17 dialectes arabes différents avec des nuances. Mais c'est aussi un très très grand joueur de kanoun. C'est une sorte de sitar. Et on l'appelle tambourine. C'est le tambour, mais c'est pas le tambour sur lequel on tambour. C'est l'espèce de luth.
Les auditrices auditeurs ratent le mime. Qui était vraiment formidable. Bon, allez, tous les renseignements sur ce rossignol de Beyrouth sur notre site internet.
Allez sur le site de Amar, il y a tout, et vous pourrez commander les disques aussi, c'est sublime.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Ah, je ne tiens plus ce soir, il me fatigue là, Philippe Azoré, Hugo Cassavetti, rappelez-moi de les séparer hein, la prochaine fois. Le dernier disque à notre sommaire, Here Comes the Cowboy, ça tombe bien. Et ça y est, il parle encore. Hein.
Bah,
Clémentine
ouais,
Gossal, on est fatigué.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Non, Mac DeMarco, chez Max Records Label, nouvel album, le Canadien émigré à Los Angeles reste toujours auteur, compositeur, interprète, producteur. Il l'a enregistré chez lui, il a créé son propre label, donc pour s'affranchir de son ancienne maison de disques. Est-il bien raisonnable qu'il joue tout seul dans sa chambre, ce musicien de 28 ans, qui continue à chanter son spleen, qui est devenu la référence de centaines de groupes de par le monde, alors que lui-même n'aspire, semble-t-il, vous allez nous en parler d'ailleurs dans un instant, Clémentine Goldsall, n'a qu'à faire sa musique tranquille et sans pression. Premier tour de table sur ce disque, Hugo Cassavetti.
Non, Mac DeMarco n'arrive toujours pas à me séduire. Il a vaguement fait illusion il y a quelques années. Après, j'ai vu sur scène avec son côté. C'était juste une phrase là.
Bah oui, c'est le principe. Mais bon, si vous en foutez.
Voilà, ce soft rock, ce cocktail rock à la mode moderne me laisse assez insensible. Là, il la joue.
Bon, d'accord. Philippe Azoury.
Super, il y a un nouveau Gigi Kell.
Ouais, Clément Singlesal.
Oh, la douceur.
La douceur, et vous avez l'envie, je sais. que nous écoutions tout particulièrement la chanson qui s'appelle K, ou K, où il dit notamment « Plus les années passent, chérie, mieux je me connais, plus mon amour pour toi semble grandir et je serais certainement mort, chérie, si j'étais parti avec quelqu'un d'autre pour tout ça et plus encore mon amour t'est proposé. »
La douceur.
As the years blow by, baby, the more I come to know myself, the more it seems my love grows for you. And surely I'd be dead, had I gone with someone else, for this and more my love's owed to you. K, anytime it feels as though my love has gone away. K, settle down, turn around, take this song and let it play. Got to know your heart, baby, still so much for me to learn. And as I do, my love stays with you. Surely I'd be dumb, baby, had I made another turn. Glad the turn that I made was you. K, anytime it feels as though my love has gone way. K, settle down, turn around, take this song, let it play. K, anytime it feels as though my love has gone away. K, settle down, turn around, and take this song, let it play.
Ben voilà pour ce morceau extrait du disque de Mac DeMarco. Alors c'est vrai que c'est un nom que je connaissais, mais moi j'avais jamais entendu, je crois, un morceau de Mac DeMarco. Alors moi qui aime les disques neurasthéniques, j'ai... Non mais c'est vrai, c'est un vrai goût que j'ai, donc ça pour le coup j'ai été assez servi. Alors 13 morceaux et 47 minutes, sauf si Philippe Azoury me contredit.
Validé.
Plongé quand même assez douce, vous disiez, mais quand même bien distordu aussi, une sorte de lit amniotique un peu incertain quand même.
Clémentine, oui, c'est ça. Il y a un Mac DeMarco, il a débarqué, on l'a découvert en 2012, il a sorti un mini album, enfin, et
vous
depuis
l'avez découvert,
on l'a découvert. Je l'ai découvert.
Je l'avais pas découvert. J'ai découvert en 2019, voyez.
Ah oui, mais c'est tard quand même.
C'est vrai. Je sais, ouais. Mais c'est pour ça que je fais cette émission, vous savez aussi.
C'est vrai. Mais donc ça fait 7 ans qu'il est dans le paysage et que il a quand même développé un son qui est, comme on l'a entendu, extrêmement simple et en même temps qui est reconnaissable à la première seconde, je trouve, quand on a entendu une fois, ensuite on peut l'identifier et ça, je trouve que c'est quand même assez rare pour être noté. Et ensuite, il est dans un personnage de rocker indépendant. Et pour moi, toute son œuvre et le succès qu'il a maintenant essaye de questionner imaginer ça, qu'est-ce que c'est que d'être un rocker indépendant. Donc pour lui, là, sur ce nouvel album, qui est son troisième album long, mais il a vraiment sorti plein de mini-albums et tout ça entre-temps, être un rocker indépendant, c'est faire un studio dans son garage de sa maison de Los Angeles et enregistrer là. Tout seul, il joue tous les instruments. Je pense que comme il revenait de tourner, il était fatigué et du coup tout est ralenti quoi. C'est comme si vraiment l'épuisement avait eu raison du costume dont qu'il n'a jamais voulu endosser par ailleurs. C'est vraiment quelqu'un qui refuse la posture et qui revendique quelque chose d'extrêmement premier degré. Et là sur cet album, ça apparaît encore plus à fleur de peau parce que par vraiment fatigue excessive, je pense. Il n'arrive plus du tout à jouer un rôle. Et du coup, l'album, pour moi, est complètement à hauteur d'homme et il susurre à notre oreille. Et j'entends quelque chose d'extraordinairement sincère que je trouve assez bouleversant.
Hugo Cassavetti.
Peut-être qu'il fatigue parce qu'il s'est fatigué lui-même. Effectivement, ce morceau, pour les gens qui découvrent, effectivement, est assez atypique. Hein, et cet album est plus atypique par rapport à ce qu'il faisait avant.
Ah, l'album.
Avant, il avait toute cette mouvance de recréer le soft rock un peu calife et des années 80, cocktail bar, non, des années 70 même. Oui. Et c'était ça, ses premiers disques avec Salad Day, tous ces morceaux-là. Et après, moi, je l'ai vu sur scène. Et moi, il y a quelque chose, le personnage, je ne suis pas sensible, j'y crois pas une seconde. Juste à côté, je me dandine, je fais des reprises nulles de Coldplay, c'est du second degré, mais c'en est pas. Et en plus, le côté, j'ai l'air de rien, mais tout ça, c'est des espèces de pros, de musicos. C'est tout ce qui m'horripile, quoi. Et donc, j'ai un vrai problème avec lui, quoi. Et là, quand il arrive tout à coup et que c'est mon album un peu, ça y est, je me torture, qu'est-ce que je vais devenir, j'ai 28 ans. 20... Si, c'est un peu son album un peu existentiel.
Il se torturait déjà avant, en fait, hein, tellement, si on écoutait. Si, il se torturait pas mal sur son père alcoolique. Il y avait beaucoup de questionnements
là,
déjà
c'est très
avant.
Comme sur les deux.
Mais ça fait un peu forcé, quoi, c'est tout. Et c'est comme s'il avait voulu faire son Sea Changes de Beck, avec qui j'ai déjà beaucoup de problèmes, et Sea Changes était un beau disque. Tout à coup, arrêter de faire le malin, et je fais un disque, sauf que Beck est allé jusqu'au bout et avait fait un disque émouvant. Là, je reste toujours un peu à la porte. C'est joli d'écouter ce morceau. Mais je me dis, ouais, tout ça, c'est un peu. Ouais, je pense que c'est un peu un faiseur, quand même.
Philippe Azoury.
Non, j'ai l'impression d'un écart théorique entre effectivement cet album qui a été enregistré en quasiment 13 ou 14 jours chez lui à Los Angeles au mois de janvier, donc avec un climat très très pluvieux, avec un mois de janvier manifestement pourri.
Pour une fois.
Pétri de doutes, enfin vraiment du type qui a du mal à se regarder dans la glace, qui ne se reconnaît pas, qui est allé au bout de la tournée, qui peut créer toujours des choses très intéressantes dans la pop, dans l'histoire de la pop ou de la folk. Et je pense qu'il y a trop, alors pour le coup, lui qui a multiplié les mini-albums ou le truc, je pense que l'album est beaucoup trop long, qu'il y a une sorte de monotonie, qu'il est très 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 mal monté, organisé, enfin, genre, ça commence à m'intéresser à leur cas qu'on vient d'entendre là, effectivement, chez moi, mais j'avais pas accroché l'attention ici dans les studios, j'ai trouvé très beau avec un son qui est très feutré, mais il faut que j'attende, moi, le 10e morceau, On the Square, ou Bye Baby Bye, ou, non, Baby Bye Bye, qui est le 13e morceau, qui est le dernier, qui clôt l'album, qui sont des morceaux qui séparément peuvent me toucher réellement. Là, j'ai l'impression qu'ils s'annulent les uns les autres et que le chemin donne l'impression, Hugo le disait, peut-être de disques de musicos d'une façon un peu lâche. Je dirais, super, il y a un nouvel album de Gigi Kell, parce que je vois ça, un peu ça, mais je pense que Gigi Kell, c'est mille fois mieux. Je connais ça, c'est très très mal, et même le peu que je connais, ça m'intéresse plutôt. Là, j'ai l'impression de lui Mac DeMarco qui se revendique vachement énormément de Jonathan Richman, il a pas la magie.
Oh, ouais. C'est vrai,
pas du tout. Oui,
il l'invoque.
Oui,
là, on est à des années-lumière.
Voilà. Il invoque énormément Ray Davis, en fait. Pour moi, il faut plus chercher
mais
du côté
des années-lumière.
Sur l'écriture, il vaut mieux pas.
Quant à qui il invoque, pour moi, c'est plutôt les Anglais. Ouais.
Et alors que moi, je vois un musicien américain qui est pas. Ou un raï-coudeur de trop, enfin de choses.
Non, mais juste. Vous balancez tous les affreux, les raï-coudeurs.
Oui, mais on est. Attendez, j'ai pas sorti Dire Straits. J'y ai pensé deux ou trois fois pour le coup, je n'aime pas des gens comme Bayon, complètement estimable, mettre au pinacle. Bon, Dire Straits, c'est horrible parce que j'ai un âge où ça m'a fait du mal. J'ai assez vieux pour avoir souffert de Dire Straits, mais il y a des relents de ça des fois. Et quand Hugo dit, c'est quand même un disque de musicos au sens de requin, presque de requin de studio, alors qu'il y a le storytelling de j'ai fait ça seul, il pleuvait, c'était dimanche. Je vois une contradiction entre la théorie du disque qui est très sincère, qui donne l'impression d'un truc intéressant, et le disque en lui-même.
C'est une toute chose, parce qu'on parlait de Tyler the Creator, qui avait un morceau très intriguant, qui introduisait bien l'album.
Ouais.
Là, c'est un peu l'inverse. C'est une catastrophe. Ça démarre sur ce morceau sans intérêt, où il répète Here Comes the Boy Boy, et on voit la pauvreté du propos, quoi.
Oui, non, moi j'ai.
Un peu, non
de... Alors, c'est peut-être le bénéfice de la première fois. Hein. Encore, je répète, moi j'étais plutôt séduit, même si la monotonie se fait sentir. Autant Tyler the Creator me raconte une histoire, autant là, j'ai l'impression effectivement d'avoir une série de chansons qui peuvent être un petit peu ressemblantes. Mais voilà, Clémentine Gossage, ça
vous a touché. Oui, je sais pas. Non, je trouve ça triste que vous n'arriviez pas à croire quand un mec vous dit j'étais au bout du rouleau et j'étais tout seul dans mon studio, que vous pensiez que c'est un requin de studio et que c'est une démarche marketing. Alors que je pense que vraiment il était juste tout seul en studio, quoi. C'est pas...
Non, je pense qu'il est sincère parce que le son que ça traduit, que ça transmet, ne donne pas l'impression de cette fêlure-là. Enfin,
mais le disque de Musicos, ensuite pour moi c'est plutôt un disque de quelqu'un qui effectivement a acquis de la bouteille et donc il est assez. Je pense que maintenant c'est un musicien professionnel, mais qu'il essaye de ne pas se prendre au sérieux. En tout cas, moi je respecte vachement cette démarche.
Écoutez par vous-même. Here Comes the Cowboy de Mac DeMarco sur son propre label, et puis vous allez pouvoir le voir en concert le 30 juin au Rock Werchter en Belgique, le 6 juillet au Festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, le 9 juillet au Montreux Jazz Festival, le 10 juillet à Lyon, le 15 novembre au Zénith à Paris, le 16 novembre à Rennes, le 17 novembre à Lille. Voilà les dates de tournée française et proche de la France de Mac DeMarco. Avant de conclure cette émission, il est temps que Joséphine Dumoulin nous renseigne au niveau du jeu de la dispute. D'abord, le rappel du jeu, dire sa question et donc sa réponse, Joséphine.
Alors, la question était, après s'être inspirée de l'œuvre d'Alexandre Dumas dans Ce souvenir de Violetta, autour de quel romancier du 19e siècle, Caroline Guillela Nguyen, a-t-elle travaillé pour sa pièce intitulée Elle brûle? Et la réponse était Gustave Flaubert.
C'était absolument cela, et Madame Bovary plus particulièrement. Ce soir, on fait gagner des DVD d'un film, et pas n'importe quel film, un chef-d'œuvre, An Elephant Sitting Still de Rubeau, un film distribué par Capricci. Donc, il faut que vous gagniez ce jeu pour avoir ce DVD. Quelle est la question?
De quel cinéaste connu pour ses longs plans séquences en noir et blanc stylisés, Rubeau a-t-il été l'élève?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission était préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Joséphine Dumoulin. Prise de son, Emmanuel Morsnacan et Valentin Bobinet. Réalisation, Alexandre Manzanares. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou vous abonner au podcast de cette émission. On se retrouve bien sûr demain à 19h pour une dispute art plastique qui sera tout entière consacrée à la Biennale de Venise. Nous serons en compagnie d'Anaël Pijat, Sally Bonne et Fabrice Bousteau.